Même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit, ramons tous.
Chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan. On an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Tout juste 20h03 sur Radio G. On vous accueille pour vivre ensemble l'actualité du sport. Bienvenue au sein de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 101.5 et pendant une heure, nous allons débriefer et analyser l'ensemble de l'actualité sport, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Alors avant de vous dévoiler le programme du jour que vous connaissez sans doute si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, voici l'équipe du jour, l'homme qui a vécu une formidable soirée vendredi soir avec l'incroyable victoire toulousaine en finale du top 14. Bonsoir Cédric.
Et salut à tous. Et oui, en rouge et noir, à nouveau. 23e titre. On en reparlera tout à l'heure.
Ouais, mais... forcément, on va en discuter ensemble.
Mais je l'avais dit.
Je l'avais prédit déjà dès la semaine dernière. C'est vrai.
Pour une fois qu'on se plante pas sur les pronostics.
Hein. Oui, il y en a un qui se plante pas trop sur les pronostics sportifs, qui avait vu une formidable épopée géorgienne du côté de l'Euro 2024. C'est Mathéo. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Flo. Bonsoir à tous.
Ça va?
Comment bah, tu vas? Écoute, grand plaisir de revenir. Ça fait deux semaines que j'étais pas venu, enfin trois émissions. Donc voilà, c'est un plaisir de reprendre ce micro dans ma main et de pouvoir reparler au sein de la radio.
On va forcément évoquer ensemble tout à l'heure l'Euro 2024 avec la Géorgie et le très très beau parcours que t'avais fait un papier dessus. Hein. T'avais fait une superbe analyse et t'avais un peu vu avant tout le monde la.
J'ai eu 3e place, meilleur 3e, donc ça a été le cas et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir devant cette Géorgie.
Toujours faire confiance à Mathéo pour les paris sportifs. Ouais. C'est lui qui domine le classement de l'équipe MPP, j'ai envie de te dire, donc toujours lui faire confiance.
Mais suivi de près par Clément.
Ouais,
attention, il revient bien.
Qui n'est pas là et qui se concentre sur les classements MPP, on le retrouvera la semaine prochaine, tout comme Alex. Et on va terminer aussi avec un homme qui est derrière la console, qui oscille entre le bac... Et la NBA, la draft, les transferts, les trades, tout ça. Donc bonsoir Faustin.
Salut Florian, salut tout le monde. Ouais, là je suis à fond en ce moment. Il se passe plein de choses tous les jours en NBA, c'est top.
Ouais, bah c'est vrai qu'il y a une énorme info aussi de ces derniers jours, donc on en parlera forcément un peu en fin d'émission tout à l'heure. Pour nos auditeurs, voici le programme du jour. Dans la première demi-heure, vous en avez l'habitude avec l'actu locale et notamment une grande interview du SCO Rugby, puisque nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Thomas Floret. Bonsoir Thomas.
Bonsoir les gars, bonsoir à tous.
Bon, ensemble on va débriefer, enfin c'est surtout Cédric et Mathéo qui vont... conduire cette interview fleuve pour parler de toute l'actualité du SCO Rugby de cette formidable saison. Je pense qu'on va en un mot sans dévoiler l'interview, vous êtes satisfait, je pense.
Ouais, on est plutôt satisfait. On fait une belle saison dans l'ensemble et en plus qui a été récompensée par la Bible du rugby. Mais du coup, on en reparlera tout à l'heure.
Ah, exactement. Il y a une très belle récompense à la clé cette année, c'est clair. Dans la seconde partie d'émission, nous allons forcément évoquer l'actu du moment avec l'Euro 2024, la qualification de la France hier pour les quarts de finale après un match magnifique. Enfin magnifique, je suis pas sûr, mais après ce match face à la Belgique,
il était magnifique.
Il était magnifique pour dormir, c'est clair, exactement. Très bien dit, Cédric. Il y aura également une partie de la NBA avec Faustin, bien sûr. On va parler de cette France consacrée au niveau de la draft, hein, consécration ultime pour la France au niveau de la NBA. Le Tour de France, Wimbledon, l'athlétisme. On a une émission riche en événements pour ce soir, pour cette émission Génération Sport. Alors avant que Mathéo et Cédric donc reviennent avec le SCO Rugby sur leur saison, voici quand même quelques infos locales qu'on va donner. On va évoquer aussi donc le championnat d'athlétisme, le championnat de France d'athlétisme qui s'est déroulé ce week-end. Première info, un peu plus de 20 000 spectateurs étaient présents au stade donc Mitulliac ce week-end sur les 3 jours. C'est forcément une réussite pour la Fédé d'athlétisme. On sait déjà que la ville d'Angers a fait acte de candidature pour les championnats de France 2028. Voilà, une autre Olympiade qui se déroulera pendant 4 ans. On aura la chance dans 4 ans peut-être de potentiellement de voir avant les Jeux à Los Angeles les championnats de France d'athlétisme. Jamoni McNeese, pivot américain en provenance du PAOK, 28 ans et culminant à 2m08, fait son arrivée dans les Mauges à Cholet. Lui qui tournait à 9,6 points par match et 6,3 rebonds, donc c'est une belle arrivée pour Cholet Basket. Et le SCO Handball qui figure bien dans le calendrier de la saison 2024-2025 de Pro League signe que le maintien dans cette division est chaque jour de plus en plus évident. Le SCO débuterait donc sa saison avec la réception de Besançon le week-end du 6, 7 et 8 septembre. Voilà les infos locales. Je laisse donc la main à Mathéo et Cédric pour cette interview du SCO de rugby.
Et aujourd'hui, le club qui nous fait l'honneur de sa présence, c'est le club que vous, auditeurs, auditrices de Génération Sport, avez élu assez largement meilleur club méno-ligérien pour la saison 2023-2024 aux Générations d'Or. Récompense aussi offerte à Victor Vara, entraîneur du SCO Rugby pour la catégorie meilleur entraîneur. Et donc ce soir, nous sommes assez bien entourés pour parler du SCO Rugby, puisque comme tu l'as dit Flo, nous sommes en compagnie de Thomas Floret. Il évolue au poste d'arrière polyvalent, tu me corriges hein, Thomas si jamais je me trompe. Et vous êtes également le responsable communication et partenariat au sein du club. Alors avant de se plonger en profondeur sur le SCO Rugby, sur cette saison également qui a été riche et porteuse d'espoir, j'aimerais revenir sur certains points et notamment un important qui vous concerne personnellement. On l'a bien vu avec les Générations d'Or, la popularité du club explose, passionnés comme novices, tout le monde se retrouve pour vivre le rugby à travers de vos équipes. Et donc un point important qu'il fallait à tout prix aborder avant de commencer, c'est simplement les postes au rugby. Vous êtes arrière polyvalent, évidemment vous allez pouvoir nous parler plus en profondeur de votre rôle au sein du SCO Rugby, mais j'aimerais avant cela que vous nous expliquiez concrètement qui fait quoi dans votre équipe.
Ok, donc moi je joue arrière, donc numéro 15, pour ceux qui voient l'équipe de France, c'est en gros Thomas Ramos, sauf que moi je bute pas, polyvalent parce que je suis capable quasiment de couvrir tous les postes derrière, donc en gros du 9 au 15, donc ça c'est ce qu'on va appeler les trois quarts, on va dire un peu ceux qui courent vite, ceux qui marquent les essais, tu vas avoir aussi la charnière, les 9 et 10, donc là 9, la référence internationale Antoine Dupont en plus qui révolutionne un peu le poste, et le 10 qui sont... Romain Tamac par exemple, qui sont chargés un peu de distribuer le jeu. Et puis devant, on va avoir les avants, c'est ceux qui poussent en mêlée, avec des troisième lignes un peu plus coureurs gratteurs, des deuxième lignes qui vont aller en touche, des profils un peu plus grands. Depuis quelques années, même, on voit des profils qu'on appelle poutres, à la Will Skelton, Emmanuel Méafou, par exemple. Et puis après, les piliers en première ligne, où là, on est sur des mecs un peu impactants. Et ben, nous, on retrouve tous ces profils-là, même en Fédéral 3, au Sco Rugby, avec toute la typologie, des postes différents, des poids différents. Je crois que ça doit aller de 70 kilos à 150 dans l'équipe. Et ça doit aller de 1m70 à quasiment 2m.
Ouais, c'est assez éclectique comme proposition sportive. Et justement, sur le plan administratif, vous, Thomas, vous êtes, comme dit en préambule, responsable communication et partenariat au sein du Sco Rugby. Concrètement, comment prend forme votre quotidien de scoïste?
Alors, on va dire que aucune journée est pareille. On a tout le temps des choses à faire au niveau du Sco Rugby. C'est un peu la particularité du club. Ce qui est intéressant, donc nous, on essaie de développer un maximum les partenariats privés, puisque aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire vivre le sport amateur. Donc, c'est un peu plus d'une centaine d'entreprises qui nous accompagnent tout au long de l'année. Donc, moi, mon boulot, il va être d'aller les chercher et puis derrière, de pouvoir organiser tout un tas d'événements pour les fidéliser. On les emmène, par exemple, au Stade de France. L'an dernier, j'en ai même amené en Écosse, voire Écosse-France à Édimbourg. Voilà, on fait des événements sur la fin de saison. On avait Serge Blanco et Daniel Dubroca qui sont venus pour notre soirée de fin de saison. Et puis, sur la partie communication, bah, ça va être de mettre en avant tout ce qui est fait au club, que ce soit des plus petits jusqu'aux résultats de l'équipe première, d'essayer de faire des contenus un peu typé inside, ce qu'on a pu faire sur les phases finales. Et puis derrière, ça va être aussi voilà de mettre en avant tous les côtés, on va dire, sociétaux du club, puisqu'on intervient beaucoup dans les quartiers prioritaires et sur la réinsertion des personnes en recherche d'emploi. On utilise le sport comme vecteur pour la réinsertion. Donc voilà, c'est assez global. Il y a des choses à faire, hein, on s'ennuie pas. Et je suis accompagné par deux personnes, moi, sur le service partenariat communication, par deux apprentis. En gros.
D'accord, des apprentis que vous prenez dans des écoles angevines.
Ouais. Là aujourd'hui, bah, on est en train de recruter pour la communication. Mais Romain, par exemple, est à Winsport à Angers, où accessoirement, je suis intervenant sur quelques matières quand j'ai le temps à côté du Sco Rugby.
On va pouvoir revenir sur toutes les propositions dont vous nous avez parlé tout à l'heure, mais avant ça, j'aimerais parler de vous, justement. Pour jouer au niveau dans le sport, c'est assez éclectique en termes d'expérience passée, notamment en année. Au football, par exemple, généralement, les joueurs commencent tout petits, là où dans la natation, même si ce n'est pas une vérité générale, on peut avoir commencé sur le tard. Je pense notamment à Maëcha Saadi, qui participera au JO à 17 ans. Dans le rugby, comment cela se passe? Et surtout, à votre niveau, comment l'aventure rugby a commencé, Thomas?
Alors pour moi, elle a commencé, je devais avoir 7-8 ans, je crois, d'un papa rugbyman. Donc voilà, j'ai voulu faire comme mon père.
Vous avez baigné dedans.
C'est ça, ouais, dans une ville dans la Loire. Moi, j'ai été formé à Rouen. Derrière, après, je suis parti en sport-études à Villefranche-sur-Saône, sur les années cadet et junior. J'ai fait un an en espoir à Villeurbanne et puis je suis retourné vivre à Villefranche et y jouer, où j'ai pu goûter un peu à la Fédérale 2. Et puis après ça, j'ai évolué donc à Tarare aussi en Fédéral 3. On est toujours à côté de Lyon, hein. Voilà, j'ai pas trop quitté la région. Et puis est arrivé le Sco Rugby il y a 4 ans qui cherchait donc des joueurs. Et puis quand on a échangé avec le club, en fait ils ouvraient un poste sur la partie partenariat communication pour professionnaliser un peu cette partie du club. Et il s'est avéré que voilà, mon profil collait parfaitement. Donc finalement, je suis quasiment plus venu pour le boulot que pour le rugby, alors qu'à la base c'était pour le rugby. Mais aujourd'hui j'arrive à joindre les deux. Et donc voilà, je sais pas si je vais pas être à ma 18e saison la saison prochaine. Donc voilà, moi c'est une histoire un peu plus longue. Après, dans l'équipe, on a des joueurs voilà qui sont arrivés un peu plus sur le tard, mais un joueur qui arrive en senior directement au Sco Rugby en Fédéral 3, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a des spécificités au niveau du sport, que ce soit déjà arrivé à plaquer en sécurité, ça s'apprend pas en un mois, hein, clairement.
Et pourquoi avoir choisi, vous, le Sco Rugby? C'est-à-dire que là, vous nous avez parlé du côté professionnel. Il y a peut-être des choses au sein du club que vous aviez vues qui vous ont permis justement de faciliter ce choix.
Ouais, alors bah déjà tout le projet du club en fait au-delà de c'est pas un simple club de rugby et moi ça m'a fait écho parce que ils menaient déjà toutes les actions de réinsertion auprès des jeunes, auprès des quartiers prioritaires. Je me suis dit voilà, c'est dans ce genre de club que je veux aller. En plus de ça, bah c'est vrai que quand on est rhône-alpin ou même sudiste, bah monter aussi haut au niveau rugby, c'est tout bête mais c'est un challenge et finalement j'ai réussi à trouver un club où on est très hétérogène en fait. Voilà, il y a, je crois, on est trois Rhône-Alpins, on a des Tarbés, on a des Basques, on a vraiment un peu de tout, même dans les nationalités étrangères. On a des Tunisiens, on a des Géorgiens. On a pas mal aussi de personnes de la communauté wallisienne. Voilà, ça fait un melting pot en fait. Et derrière, on retrouve toutes les valeurs du rugby qui transpirent, par exemple, en Rhône-Alpes ou dans le Sud-Ouest, dans ce club-là. Et pour un club de plus de 600 licenciés, on arrive quand même à avoir cet esprit famille, ce qui des fois est pas facile. Et voilà, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds en me disant, bon, voilà, le club a l'air sympa. Et puis, c'est dans une grande ville, on va voir ce qui s'y passe. Et finalement, bah, j'en suis tombé amoureux, clairement.
Justement, vous nous parliez des 600 licenciés réunis autour de plein d'âges et plein de sexes également. C'est le gros point fort du SCO Rugby aussi.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, bah, on est quasiment dans les 20 plus gros clubs de France. Hein. Je crois, au dernier compte, on devait être à 670 licenciés. Voilà, du 3 ans à je sais pas quel âge, à notre plus vieux licencié qui joue en rugby à toucher, mais il a plus de 70 ans passé. Même on a des éducateurs qui ont plus de 80 ans, qui sont encore sur les terrains. Et avec, en plus, des équipes voilà aussi bien masculines que féminines. Le rugby à toucher, par exemple, est mixte. On a une équipe féminine qui joue actuellement en Fédéral 2, la 4e division, donc qui performe aussi, 3 années de suite en phase finale. Nous, les garçons, au niveau des seniors, c'est 3 équipes complètes. Donc voilà, il y a de quoi faire. On est un gros gros club, mais aujourd'hui il y a la place pour tout le monde et c'est ça qui est vraiment intéressant.
3 équipes complètes masculines qui performent, notamment la vôtre, l'équipe qui se situe en Fédéral 3, puisque cette saison a été plutôt bonne. Mais avant ça, justement, je voulais revenir sur le fonctionnement des championnats, des divisions fédérales. Avant de parler du déroulé de votre saison, pour pouvoir être précis au niveau de nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe ?
Ouais, alors si on prend par le haut, donc on a le top 14, la Pro D2, voilà, comme il peut y avoir en foot, la Ligue 1, la Ligue 2. Derrière, jusqu'à il y a 5 ans, on avait Fédéral 1, 2 et 3, qui étaient les 3 divisions amateurs nationales. Entre-temps, la Fédération a rajouté une Nationale et une Nationale 2, qui sont venues se greffer entre les divisions fédérales et les divisions professionnelles, où on est alors... Sur la nationale, on est sur un niveau professionnel. Aujourd'hui, il y avait que l'équipe de Vienne qui arrivait à jouer avec des joueurs plus réactifs. Mais sinon, on est des joueurs qui vivent du rugby. Sur la nationale 2, bah, par exemple, nos amis nantais montent en nationale 2. Là, on est sur une division professionnalisante. Et nous, les divisions fédérales, on est des divisions amateurs. Donc, par exemple, nous, les gars, s'entraînent 3 fois par semaine, plus une séance de récup, plus les matchs le dimanche, plus aller quelques séances de muscu dans la semaine si on veut être en forme. En ayant fait la journée de 7 à 8 heures de boulot avant. Donc voilà, nous on évolue en Fédéral 3, donc qui aujourd'hui est la 7e division nationale. Le projet du club serait de pouvoir monter sur les divisions nationales, voilà, d'ici à une dizaine d'années. On veut quand même prendre notre temps, parce que déjà faut des gros moyens financiers, et puis que faire monter des gens jusqu'à Angers, notamment des sudistes et des Rhône-Alpins, c'est pas si facile que ça.
Pourquoi cela justement?
Alors quand on franchit la Garonne, c'est toujours un peu compliqué de déraciner, et c'est tout bête, mais voilà, cette vision moi aussi que je pouvais avoir en me disant en allant à Angers, le club a l'air sympa, mais est-ce que je vais y retrouver quelque chose de familial? Et finalement, en fait, ça l'est totalement, mais on se rend compte qu'on arrive à le faire avec des joueurs où c'est nous les liens, les joueurs qui venons d'ailleurs pour les faire venir, parce que ces mecs-là, voilà, Angers, qu'est-ce que je vais monter jouer au rugby à Angers? Je suis bien dans mon Sud-Ouest, je suis bien dans la région lyonnaise. Mais après, par contre, une fois qu'ils y sont, ils ont tendance à plus bouger.
Justement, toi qui gères la com, comment tu t'y prends pour essayer d'amadouer un petit peu ces rugbyman-là?
Là aujourd'hui, la politique qu'on avait pris au niveau de la com, c'était d'essayer de faire quelque chose d'assez quali, de se baser sur ce que faisaient les clubs pros, donc déjà qui dénotent assez avec les clubs qui sont quasiment pro dans le Sud-Ouest, on va dire semi-pro, mais qui à côté ont pas besoin d'accès à une forte com, et finalement on arrive à prendre une place nous dans la, on va dire, dans le monde du rugby avec cette communication là. Et après, ça va être de mettre en avant voilà tout cet aspect convivial, tout cet aspect famille qui peut y avoir, et aussi les résultats en se montrant comme un club ambitieux. Et puis après, derrière, dans le recrutement, ça c'est plus le coach qui gère, mais c'est de dire voilà, Angers, on est quand même la première ville de France où il fait bon vivre, première ville verte de France, voilà, il y a plein d'avantages, viens t'installer ici avec ta famille, tu vas voir, tu vas pas le regretter, tu vas jamais partir.
On va rester sur le sujet de la Fédérale 3 avant de parler de vos résultats sportifs. Je vais parler du déroulé de vos saisons, parce que c'est assez compliqué au premier abord. En tout cas, c'est difficile un petit peu à comprendre. On passe par un groupe au début, donc on fait les matchs, une saison régulière. On passe ensuite par des barrages et ensuite 32e, 16e de finale, etc. Et à partir des 16e de finale, on monte en Fédérale 2. C'est à peu près bien résumé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce déroulé?
Alors c'est ça. En gros, le barrage n'est pas obligatoire. Ça dépend de à combien on finit dans le classement. Donc on est répartis. L'année prochaine, je crois qu'on sera en 16 poules de 10 équipes. Donc les poules sont suprarégionales. Par exemple, cette année, on descendait jusqu'à La Rochelle, nous. Donc on joue en match aller-retour. Et à l'issue de cette saison, il y a donc les trois premiers qui partent directement en phase finale. Les quatrièmes et quelques meilleurs cinquièmes. L'an dernier, on était dans les meilleurs cinquièmes. Cette année, on s'est qualifié en étant quatrième, passe par un tour de barrage. Donc l'an dernier, on avait dû se déplacer. On est sur un match sec, le barrage. Et cette année, on a accueilli Vitré, donc chez nous, à la Baumette, qu'on a battu. Et derrière, du coup, on a fait partie des équipes engagées en plus en phase finale. Et on attaque sur un 32e de finale. Donc 32e, pour le moment, qui est un peu notre plafond de verre, puisque l'an dernier, on a échoué contre Plouzané et cette année contre Blois. C'est des matchs en aller-retour. Voilà, le score est pas acquis à l'issue du match aller. En étant à chaque fois classé quatrième, nous on reçoit le premier match et on se déplace pour le deuxième, ce qui des fois peut être un peu plus compliqué parce qu'on joue le match un peu tranchant en terrain ennemi, on va dire. Même si bon, cette année nos supporters ont fait le déplacement à Blois et on entendait que, mais voilà, ça nous a pas suffi. On échoue à 4 points. Et après derrière, si on était passé, on serait parti sur des 16e de finale. Donc là cette année, Blois je crois a joué Auray, si je me trompe pas. Donc on aurait joué cette équipe là. Et donc on était encore sur un format match aller-retour. Avec, on se serait à nouveau déplacé pour le match retour. Et si on avait gagné, on serait passé en fédéral 2. Derrière, la saison en fait continue, 8e, quart, demi et finale pour aller chercher le titre de champion de France. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est Saverdin qui l'a décroché ce week-end. Où là, on est sur des matchs secs, en terrain neutre. Voilà, c'est un peu plus facile. Le premier objectif, souvent, est la barre des 16e pour passer en fédéral 2. Mais ouais, c'est assez long. Et un premier de poule, ce qui est un peu la beauté du rugby, même au niveau pro, hein, le premier de la phase régulière n'est pas forcément champion de France. Nous, bah, c'est ça aussi. Un premier de poule ne monte pas forcément. Quand dans beaucoup d'autres sports, un premier d'une phase régulière, souvent a tendance à monter. Et puis, c'est un peu derrière qu'ils vont se batailler pour essayer de chercher les prochaines places. Chez nous, c'est pas comme ça. Dans notre poule, personne n'est monté, par exemple.
Bah merci pour ces explications. Déjà, ça va permettre de justement parler de vos résultats. Vous nous avez fait un petit résumé assez simple. On va pouvoir parler de cette saison. Vous avez fini quatrième, du coup, comme vous nous l'avez dit. Est-ce que ça a été une saison assez linéaire en termes de positionnement au classement ou pas du tout?
Oui et non. En fait, on savait qu'il y avait deux grosses machines devant, que sont les Sables d'Olonne et Parthenay, qui ont alors un projet club un peu différent, notamment Parthenay, avec une équipe basée énormément sur des gros joueurs en fin de carrière pro qui vont chercher assez peu de formation. Nous, à l'inverse, on se bataillait. Du coup, on savait qu'on avait la troisième place à aller chercher avec Saint-Nazaire et puis le Borough, qui sont des clubs un peu plus comme nous, voilà, qui s'appuient beaucoup plus sur la formation, beaucoup plus sur des joueurs du bassin, avec des moyens à peu près équivalents. On va dire qui sont mis sur leur équipe première. Donc voilà, on est monté à la troisième place, on est redescendu à la cinquième, mais globalement on s'est équilibré au niveau de la quatrième place. Voilà, à la mi-saison on s'est dit voilà, c'est cette place là qu'il nous faut, parce que avoir un match de barrage, est-ce que c'est bien ou pas? Ça nous permet mine de rien d'avoir un tour de plus à jouer pour se mettre en jambes. Malheureusement, on a eu un carton rouge sur ce match, donc ça nous a handicapé derrière sur les 32e. Donc je pense que l'an prochain, on essaiera de les éviter, clairement. mais ouais, globalement, la saison a été même, plus dure dans les impacts que l'an dernier, mais un peu plus facile puisqu'on était moins d'équipes à la bataille pour les phases finales que l'an dernier, où on était, je crois, quasiment 7 équipes pour 4 places, en gros.
Alors vous nous avez parlé de ce carton rouge qui vous a handicapé entre guillemets, reçu contre Vitry. Vous avez joué Blois ensuite et je n'irai pas jusque dire que ça vous a handicapé puisque vous avez failli réussir l'exploit de passer face à Blois.
Ouais, alors on a un petit regret sur le match aller où on prend un essai à la 80e. Bon, je ferai pas comme Victor Varas, notre entraîneur, je reviendrai pas forcément sur l'arbitrage, mais voilà, on part là-bas avec un match nul. On aurait aimé partir avec 7 points d'avance, ça aurait été peut-être un peu plus facilitant, surtout qu'il y avait du beau temps, ça nous convenait un peu mieux nous en termes de style de jeu. On arrive la semaine d'après là-bas à Blois, mais un terrain catastrophique, il a plu pendant les 80 minutes de match, c'était un champ de patates. Et on échoue à 4 points. Je pense que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Clairement, il y a les gros, on fait une bataille. Les gros, donc c'est ceux qui jouent dans la mêlée, dans le jargon rugby. On fait une bataille vraiment exceptionnelle sur le terrain. Mais voilà, ça a pas suffi. Nos arrières avaient un peu les chaussures lourdes avec la boue. Mais on voit qu'on s'en rapproche. L'an dernier, je crois, on échoue à 8 points. Cette année, à 4. On se dit, l'an prochain, allez, ce sera la bonne.
On va sur la famille du terrain. Ils sont bien sortis, hein, malgré la pluie et le mauvais temps.
Ouais. On s'en est plutôt bien sorti.
Et justement, bah, Fédéral 3, comme vous nous l'avez dit, c'est un petit peu ce plafond de verre pour l'instant que vous aimeriez briser. C'est le cas depuis cette saison et au vu de cette saison, ou c'est déjà le cas depuis quelques années maintenant?
Alors, bah, ça fait 2 ans qu'on est vraiment en phase finale. Hein. Avant, on était plus à jouer le maintien. Le groupe s'est tranquillement construit. On rajoute, allez, 2 à 3 éléments dans chaque année dans l'équipe à des postes clés. Mais globalement, voilà, on a 3 ans d'ancienneté entre nous. Donc, on sent que on va pouvoir le franchir. La génération dominante sur le groupe, c'est ma génération. Hein. C'est les 96, 97, 98. On arrive aussi entre guillemets à un âge de maturité, là, 27, 28 ans. Donc, on voit que c'est peut-être l'an prochain qu'il faudra le tenter. En plus, maintenant, on a cette expérience des phases finales là, ces matchs aller-retour, c'est assez particulier. Donc, l'objectif l'an prochain, bah, sera d'aller en phase finale, déclarer clairement qu'on veut monter, c'est assez compliqué, tout dépendra du tableau, tout dépendra du temps qu'on aura sur les matchs, mais clairement, nous, les joueurs, on a envie de voir ce qui se passe plus haut dans le groupe, là, on se l'est suffisamment dit, on veut revivre ces émotions de phase finale, et même déjà, ne serait-ce que de franchir le 32e, on aimerait le faire, ouais.
Un objectif clair donc pour le futur, et Cédric, je vais te donner la main justement pour en parler de ce futur, puisque je crois que tu as quelques questions.
Oui, forcément, au vu de la saison, je pense que bah, du coup les ambitions ont été revues un petit peu à la hausse pour l'année prochaine, quelles que soient les différentes sections. Il y a eu des résultats, il y a eu des récompenses aussi qui ont encouragé ces résultats. Forcément, c'est comme je l'avais dit quand on avait présenté un peu le club pour les générations d'or, c'est toutes ces années d'acharnement, de travail, que ce soit auprès des entraîneurs, des joueurs, mais aussi de l'encadrement autour, voilà, qui est majoritairement bénévole. Forcément, pour l'année prochaine, les ambitions, comme tu as un peu expliqué, c'est d'aller encore plus haut pour le groupe masculin. Chez les filles, forcément, je pense que l'objectif, c'est de monter aussi.
Alors sur les filles, on va voir, parce que le parcours est encore plus compliqué hein, pour monter. C'est que en gros la fédérale 2 féminine est organisée de manière régionale. Elle passe par des phases finales régionales. Les deux finalistes partent en phase finale de championnat de France. Et elles ont plusieurs tours de championnat de France à passer. Donc elles, c'est vraiment un chemin de croix. Hein, c'est assez compliqué. Par contre, oui, si une occasion se présente, les filles iront sur la montée. Après, on a quand même un objectif au niveau du pôle féminin. On a pas mal de petites filles à l'école de rugby, ce serait de construire une équipe nous U18. Aujourd'hui, elle est en rassemblement avec le département. On aimerait avoir cette continuité dans la formation des filles, puisque ce serait de pouvoir stabiliser aussi l'effectif. Et puis, on a de la formation qui commence à fonctionner chez les, filles.
Cette année, chez les jeunes, en règle générale, ça a quand même bien poussé. Ouais, il y a eu pas mal de résultats. Ouais.
Alors cette année, ça a été un peu plus compliqué. Par exemple, sur notre équipe cadet, on avait une génération un peu plus petite en termes de gabarit, qui ont eu un peu plus de mal. Par contre, historiquement, on a quand même des générations qui fonctionnent. On a encore joué avec des jeunes qui sont montés de junior cette année en équipe première. Nos équipes jouent au niveau national. C'est la deuxième division au niveau des équipes cadet junior, donc moins de 16 ans et moins de 18 ans. On affronte des Stades Nantais, des Rennes, des équipes. Leurs seniors sont en niveau national. Donc aujourd'hui, en junior, ils préparent des gamins à aller jouer au niveau national. Nous, on les prépare pour jouer en Fédéral 3. Alors, on essaie qu'ils aient le niveau quand même un peu au-dessus, comme ça, au moins, ils nous apportent quand ils montent en première. Mais ouais, il y a un gros boulot de formation qui est fait sur le club. Cette année, on a joué avec un peu plus d'un tiers de joueurs formés au club. Donc, c'est plutôt positif. C'est un boulot qui prend du temps. C'est aussi pour ça qu'on prend le temps de le faire, qu'on ne veut pas brûler les étapes. Mais on sait que le projet, au moins, est stable et viable dans l'avenir.
Oui, puis forcément, ça passe par le côté maintenir les joueurs au sein de l'équipe. On voit sur les réseaux, c'est un nouvel axe aussi de communication, j'ai remarqué, c'est que le club communique comme des clubs professionnels en annonçant que voilà des joueurs vont rester. Je pense qu'il y a un petit côté aussi humoristique derrière pour montrer un peu cet esprit familial, tout ça. Quand on voit à côté Van qui va monter dans l'élite du rugby cette année, et comme tu le disais, le projet, c'est d'ici une dizaine d'années, justement, d'avoir une structure un peu plus professionnelle, voire professionnelle. Justement, c'est quoi vraiment les clés et les ambitions pour y arriver ?
Alors les clés, bah, de toute façon, ça va être de continuer nous sur ce projet-là. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on forme trop bien, on n'arrive pas à garder nos jeunes. Bon, on a quand même quelques pépites, hein. Paul Boudéan qui a fait la Coupe du Monde, Pierre Boudéan qui a fini, qui allait en demi-finale avec le Stade Français, Émeric Cetiano qui avait joué la Coupe du Monde 2019. On a même quelques jeunes, Yoni Touattané qui a fait des feuilles avec Clermont-Ferrand en Top 14. On en a un autre, Mathis Pacchiana, qui a joué avec Albi en National. Enfin, voilà. Et on en a encore là un qui part, un jeune junior qui part à Nevers. En centre de formation, on doit avoir une dizaine de jeunes dans les centres de formation. Mais l'idée à terme sera de pouvoir les garder chez nous, ces jeunes-là, pour vraiment qu'ils alimentent l'équipe première et qu'ils puissent aller encore plus loin. Ça va être aussi de recruter des joueurs un peu cadres, par exemple anciennement passés par du niveau professionnel, qui vont être plutôt en fin de carrière et qui vont pouvoir apporter et former aussi toute notre jeune génération. On est une équipe, je crois, qui avons moins de 25 ans de moyenne d'âge là cette année. Donc on a encore quelque chose à créer. Après, derrière, le nerf de la guerre, clairement, c'est les finances pour pouvoir évoluer. C'est pour ça que qu'on travaille d'arrache-pied pour trouver de nouveaux partenaires. Qu'une centaine de partenaires aujourd'hui, c'est limite pas suffisant. Clairement, pour monter et exister en Fédéral 1, il faudra dépasser le million d'euros de budget, et le million d'euros, on en est encore loin. Donc voilà, si on veut atteindre les niveaux nationaux, c'est même encore aller au-delà. Voilà, il y a vraiment un gap financier à franchir. Aujourd'hui, on a les personnes aux bons endroits pour amener le club, que ce soit à la présidence, que ce soit au niveau des entraîneurs, pour emmener le club plus haut. Derrière, voilà, faut qu'on arrive à être accompagné comme il faut par les partenaires, ça c'est mon boulot, et puis même par les collectivités en général, on va dire.
Justement, si tu veux passer un message, c'est le moment. Voilà, si peut-être qu'il y a.
Je crois qu'il est déjà passé le message. Hein.
Oui, mais c'est toujours bien de le marteler, justement.
Non, bah déjà.
Quels que soient les clubs qu'on a reçus, souvent, surtout quand c'est le milieu amateur, c'est vrai que c'est le plus dur, c'est d'aller les chercher et surtout de les conserver et qu'ils arrivent à se développer aussi un peu plus.
Ouais, bah c'est ça. Au niveau par exemple des collectivités, bah déjà on remercie la mairie. On a une tribune depuis cette année. En Fédéral 3, on n'avait pas de tribune avant. Il y a quasiment aucun club qui n'en avait pas. On se rend compte que on a 500 places sur les phases finales. On était 750 à 800 personnes. Donc on les remplit largement. Il faudrait quasiment dire bon, rajoutez-nous en une. Mais voilà. Et puis après au niveau des entreprises, c'est aussi mon boulot au quotidien, donc je le vois, c'est voilà, rejoignez-nous, on est un club tellement atypique par tout ce qu'on fait à côté du rugby et puis la qualité de la formation qu'on mène, voilà, il y a à nous accompagner.
Est-ce que l'image du rugby aussi qui existait déjà depuis tant d'années, mais qui est vraiment le sport populaire en ce moment, voilà, le sport que tout le monde regarde, il y a un match de rugby du Top 14, ou même quand on voit les audiences qui sont faites sur Canal+, sur France 2 ou quoi que ce soit, tu sens que ça apporte quelque chose, toi, le week-end?
Ouais, alors on l'a senti déjà, l'effet Coupe du Monde, hein, c'est tout bête, mais a permis de faire venir du monde au stade. Après, derrière aussi, tout notre boulot sur la région angevine. Et puis, ce qui fait du bien aussi en général dans le Grand Ouest, c'est les deux derniers titres de champion d'Europe de La Rochelle. La montée de Vannes en Top 14, on sait que ça va nous permettre de faire rayonner le Grand Ouest et aussi nos amis nantais qui montent en national. Voilà, ça attire un peu tout le monde vers le haut. Si on pouvait être ce quatrième wagon du Grand Ouest, on prend la place volontiers.
Et je parle pas seulement des supporters, même pour les partenaires, c'est plus facile pour toi de vendre ton produit. Malheureusement, c'est ça aussi. C'est aussi vendre un peu ce que vous faites et qui est de très bonnes choses, parce qu'on va l'évoquer dans quelques instants avec le trophée que vous avez reçu en fin d'année. Tu sens que ça peut aider aussi à amener plus de partenaires dans le club?
Ouais, carrément. Et puis notamment ce qui aide au rugby, ça va être tout les valeurs qui y sont associées. Voilà, dans un stade de rugby, les supporters sont mélangés, on boit tous une bière ensemble à la fin du match. J'ai même vu des matchs où j'avais mon pilier qui s'était avoiné avec un gars sur le terrain. Je sors du vestiaire, je les vois accoudés les deux au bar dans le clubhouse en train de discuter. Voilà, ces valeurs-là, elles parlent aussi aux gens et ils ont envie de. On voit que les gens ont envie de revenir à des valeurs comme ça, beaucoup plus saines et d'autres. En plus par les temps qui courent.
Voilà, là on a parlé un peu plus du sportif, mais dans les projets justement futurs, tout à l'heure tu parlais de tout ce qui était projet d'insertion lié avec des partenaires. Je sais qu'il y a eu des sortes de salons de l'emploi faits au sein du club avec différentes entreprises qui sont déplacées, alors qui n'étaient pas forcément peut-être tous partenaires, mais en tout cas qui participaient à l'événement. C'est des choses qui vont être reconduites l'année prochaine, ou avec plus de visibilité, plus d'envie d'en faire plus souvent, faire d'autres types d'événements qui vont dans ce sens-là.
Ouais, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, c'est clairement un des axes de l'ADN du club, ce côté-là. Ça a été lancé, si je me trompe pas, il y a 7 ans par un de nos bénévoles, une opération qui s'appelait Un essai transformé pour l'emploi. On accompagnait des jeunes en recherche d'emploi et on utilisait le sport comme vecteur de valorisation des compétences. Voilà, c'est tout bête, mais quelqu'un qui est pas scolaire, qui a pas d'emploi, c'est pas dans une salle de classe qu'on va voir qu'il peut avoir une âme de leader et peut-être être chef d'équipe. Par contre, sur un terrain, ça se voit beaucoup plus facilement. Et du coup, on a construit tout un tas d'actions comme ça. On relance une session en octobre, si je me trompe pas. D'un essai transformé pour l'emploi avec CCI formation où là on est spécifique sur les métiers de la logistique, mais le but va être d'avoir voilà une dizaine, quinzaine de personnes. On va les garder 4 mois en intégrant du sport et de les raccompagner vers l'emploi. On a déjà des partenaires qui se sont mouillés pour faire des promesses d'embauche. Voilà, ça c'est vraiment un ADN du club et on va même aller plus loin puisqu'on va s'attaquer à un public qu'on connaît pas, qu'on va tenter. C'est avec la maison d'arrêt d'Angers. Puisqu'on a un de nos bénévoles qui est cuistot là-bas et ils nous ont mis en lien, on a déposé un projet auprès du ministère de la Justice, on a même été lauréat et donc on va dupliquer un peu ce format, un essai transformé pour l'emploi pour favoriser la réinsertion des détenus en fin de peine. Ouais, c'est vraiment l'ADN du club aujourd'hui et ça nous permet aussi, bah c'est tout bête mais d'être différenciant. Quand tu parlais d'aller vendre le produit Sco Rugby, aujourd'hui les boîtes cherchent aussi à accompagner des actions RSE donc qui leur permettent de donner de l'argent à des structures qui font des bonnes actions. Aujourd'hui on est ce type de structure là et on le restera hein, même si on monte à des niveaux supérieurs. De toute façon c'est ancré dans l'ADN, toutes les personnes du club portent ces projets là, ces valeurs d'inclusion. On a fait la soirée de fin de saison, c'est la communauté Wally qui a cuisiné dans ce projet d'intégration du vivre ensemble. En fait, on veut vraiment être un peu les portes-étendards de ça.
C'est vraiment une très très bonne chose, en tout cas, de voir ces projets-là, surtout en plus dans le contexte actuel, on va dire. Voilà, c'est important de le souligner. On va parler forcément de ce trophée qui est venu récompenser une magnifique saison et un travail de nombreuses années, je pense, ce trophée du Middle. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le club finalement? Voilà, dis-nous un peu quel est le ressenti du club.
Alors déjà, ce qui est exceptionnel, c'est que autant on a décroché tous les labels fédéraux, on est allé déposer des dossiers pour les avoir. Là, en fait, on nous a appelé un jour en disant bon, on vous a sélectionné pour recevoir l'Oscar du rugby amateur. On dit waouh, ok. Il y a 3 clubs récompensés en France. Les autres clubs sont en fédéral 1. On est le seul club de fédéral 3, donc deuxième waouh. Et derrière, on dit bah voilà, c'est le Midi Olympique. On organise ça, donc vraiment la bible du rugby. C'est comme si on était un club de foot et que c'était France Football qui nous appelait clairement. Donc ils nous appellent en nous disant voilà, on a vu ce que vous faisiez, notamment en termes de formation et de réinsertion, et on trouve que votre projet est génial. On va venir vous organiser une soirée. Donc on était au cinéma au pâté à Angers. On avait l'ensemble de nos licenciés qui étaient présents. Christian Califano et Romain Magellan sont venus animer pour mettre en avant le club. Et derrière, ça a découlé en amont sur une demi-page dans le Middle, après sur une pleine page dans le Middle. Donc c'est une vraie fierté parce que on est reconnu par nos pairs. Comme je l'ai dit, la bible du rugby qui reconnaît tout le travail de fond qu'on a fait depuis des années. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux comme reconnaissance. Alors si, bon, la reconnaissance qu'on pourrait rêver en plus, c'est la montée sportive. Mais déjà, celle-là, elle est très très belle.
Mathéo t'en parlait du coup aussi pour les joueurs qui vont venir. Je pense que ça peut forcément aussi aider d'avoir ce genre de récompense. La demi-page puis la pleine page dans le Middle, c'est vraiment... vraiment le petit truc en plus pour vous, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça a permis, c'est tout bête, mais voilà, le Middle est beaucoup lu dans le Sud-Est. Ça nous aide aussi à un peu plus toucher les joueurs, des fois, qui regardent à pas plus de 50 km de chez eux, à se dire, dans le Grand Ouest, il se passe quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, d'autant plus avec la montée de Vannes, la montée du Stade Nantais, il se passe vraiment des choses dans des terres qui, à la base, sont pas rugby. On arrive à faire vivre et même faire très bien vivre l'esprit rugby.
Et puis bon, 2 générations de sport. D'or, hein. Ça fait toute la différence hein, maintenant.
Que de récompenses cette année pour le Sco Rugby. Tu parlais donc du sud-ouest de la France. Forcément, je pense que t'as eu un œil sur ce qui s'est passé vendredi avec donc cette finale Toulouse-Bordeaux-Bègles. Je pense que ça fait un grand bruit forcément dans le monde du rugby cette finale 59-3, le résultat, victoire toulousaine. Qui a ravi forcément Cédric, hein, qui d'habitude met le maillot et là il l'a pas mis aujourd'hui.
Non, c'était pas très compatible avec le travail.
Mais ouais, dans le monde du rugby, je sais pas, entre vous même, je pense que vous avez forcément dû en débriefer.
Alors ouais, on en a forcément débriefé. Après, de là à dire que c'est vraiment une surprise, oui et non. Toulouse a trois équipes complètes capables de rivaliser en top 14. Bon, la troisième jouerait peut-être plus le maintien que le haut de tableau. À côté, Bordeaux s'est battu en barrage, s'est battu toute la saison, a aligné Jalibert et Tamei Funa qui étaient clairement sur une patte. À côté, les mecs, ils avaient le couteau entre les dents, ils ont récupéré un Kinghorn qui avait jamais joué en top 14. En un match, il était déjà devenu chouchou du public et il était un élément cadre de l'équipe. Voilà. De là à en passer 59, non, j'aurais pas parié dessus, mais Toulouse aujourd'hui, et puis il y a une culture de la gagne à Toulouse qui fait aussi la différence. Ces mecs-là, ils connaissent les phases finales, ils y sont habitués, même quasiment depuis qu'ils sont tout petits, hein, ils sont biberonnés à ça. À côté, Bordeaux, c'était leur première finale. Voilà, il y a tout à apprendre, même s'ils ont des cadres qui l'ont déjà fait. Ils ont encore tout à apprendre. Ils reviendront plus fort, ça j'en doute pas, et dans les années à venir, ils viendront sûrement titiller le stade toulousain parce qu'ils ont une belle équipe, ils ont un beau projet. Mais aujourd'hui, pour rivaliser avec Toulouse, compte tenu de ce qu'ils montrent dernièrement et de comment ils ont construit leur effectif, ouais, c'est compliqué.
En résumé, c'est un peu comme le score rugby, c'est grandir tout doucement, quoi. Étape par étape.
Ouais, c'est ça. Alors, nous, on se compare un peu plus au Stade Rochelet, par exemple, voilà, qui a vraiment pris le temps de grandir. Voilà, Toulouse est quand même une institution historique du championnat de France. Il y a une culture de la gagne depuis des années et des années. Ok, nous, on a 103 ans, mais on reste un club jeune quand même dans la structuration. Donc voilà, on préfère prendre l'exemple de nos amis Rochelet ou Vanté plutôt que de. Et puis, ce serait un peu présomptueux de prendre l'exemple du Stade Toulousain quand même.
Ce que t'as demandé de Mathéo tout à l'heure, par rapport au poste, par rapport aux divisions, d'expliquer, de vulgariser un peu pour tout le monde. Est-ce que tu peux aussi nous donner un peu la différence, parce que tout à l'heure tu parlais d'Antoine Dubon qui est en train de révolutionner le poste, mais ou même le jeu, quoi, directement. Quelle est cette différence entre de jeu, peut-être entre le 15 et ce qui fait au 7, parce que du coup on a l'impression d'avoir un joueur qui est tellement facile dans les deux. Mais quelle est la difficulté pour un joueur qui joue au 15, qui joue au 7, quelle est vraiment la, et puis il y a le 13 aussi, il me semble, donc quelle est la différence entre les trois disciplines, quoi?
Alors, déjà, faut mettre le rugby à 13 de côté puisque c'est pas la même fédération.
D'accord.
C'est là, il y a une fédé spécifique au rugby à 13 et si je me trompe pas, qui gère aussi le rugby fauteuil qui sera au Paralympique. Le rugby à 13 est un rugby à mi-chemin entre le football américain et le rugby. Puisque l'idée est d'avoir un gagne-terrain. À chaque fois qu'il y a un plaquage, on arrête le jeu et on continue. Voilà, la seule différence avec le football américain, c'est on a les passes en arrière comme au rugby.
Donc, d'accord.
Voilà. Après, derrière le rugby à 15, donc c'est celui qu'on voit à la télé, et le rugby à 7, on est sur un format beaucoup plus court, beaucoup plus intense, puisqu'on est sur des périodes de 2 fois 7 minutes. On garde le même terrain, mais on met que 7 joueurs au lieu de 15. Là où Antoine Dupont est assez exceptionnel, c'est que souvent, ça va demander des qualités complètement différente, beaucoup moins dans la percussion, beaucoup plus dans l'évitement. Au rugby à 7, on prend le temps des fois même d'accepter de reculer, alors qu'au rugby à 15, c'est vraiment prendre la ligne d'avantage systématiquement pour faire reculer l'adversaire. Au rugby à 7, on va plus prendre le temps d'attendre que l'adversaire nous laisse un trou pour s'y incruster. Là où le rugby à 7 a aidé énormément Antoine Dupont, c'est qu'il est devenu un meilleur gratteur et un meilleur plaqueur. Donc gratteur, par exemple, on l'a vu en finale, il allait chercher des ballons dans les rucks, des choses comme ça. Il attaque beaucoup plus en bord de ligne, ce qui est assez exceptionnel. Et après, il est arrivé aussi avec une qualité physique et voilà, un peu petit, trapu, des physiques qu'il y a assez peu dans le rugby à 7. On est beaucoup sur des joueurs assez coureurs. Et par exemple, c'était quoi, en quart de finale, je crois, à Madrid, il a mis un énorme rafut à un Anglais qui a fait 3 roulés-boulés avant de se rendre compte qu'Antoine Dupont était à l'essai. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ces gabarits-là.
Ouais, on dit toujours qu'Antoine Dupont est un peu le 9e avant dans le rugby à 15, qui vient aussi aider ses avants. Est-ce que tu penses que ça va inspirer de nombreux joueurs ou peut-être changer un peu la physionomie du jeu dans les années à venir de voir Antoine Dupont comme ça?
Alors ouais, ça va la changer en quelque sorte. Après, il a une panoplie tellement complète que aucun joueur peut imaginer avoir sa panoplie, je pense. Mais dans tous les cas, il a révolutionné le poste, ne serait-ce que déjà par ses occupations au pied, toutes ces choses-là. Il a une qualité assez exceptionnelle et même. De manière générale, la charnière du Stade Toulousain révolutionne assez le jeu avec un Ntamack qui attaque beaucoup plus la ligne que certains 10, qui est un très très gros défenseur. Historiquement, les 10, c'était pas les plus gros défenseurs du monde. Hein. Heureusement qu'il y avait les troisième lignes parce que sinon, ça le faisait pas. Lui a révolutionné un peu ça. Antoine Dupont est aussi un gros défenseur. Et puis a une capacité à relancer les ballons qu'habituellement osait plus sur le, voilà, on comptait plus sur les, par exemple le 15, sur les ailiers. Lui le fait en plus. Et puis, comme tu le disais, il intervient aussi auprès des avants forts. Alors, comme pouvait par exemple être Byron Keller à l'époque avec le Stade Toulousain, c'est quand même assez dans l'ADN de cette équipe-là.
Tu vas avoir le, on va peut-être finir l'interview là-dessus. Tu vas avoir le rugby à 7 donc aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu penses que toi, voilà, ça peut donner aussi un peu d'intérêt? Il y a eu la Coupe du Monde en début d'année. Voilà, il y a aussi eu le Top 14. Maintenant, il y a les Jeux Olympiques. Tu penses que, d'un point de vue licencié, ça peut vous apporter ces genres d'événements diffusés au plus grand nombre en plus?
Alors, on l'a vu là sur la Coupe du Monde. Nous, ça nous a rapporté des licenciés. Même aujourd'hui, on est vraiment très très gros et quasiment trop gros. Le rugby à 7 le fera aussi, notamment parce qu'il y a Antoine Dupont. Aujourd'hui, le rugby à 7 bénéficie du joueur, mais aussi de sa médiatisation. Et ça, c'est vraiment très très bien pour ce sport. Moi, j'adore le pratiquer, le rugby à 7. On est plusieurs joueurs. On a pu pratiquer le rugby à 7 sur le Tour Elite, qui est voilà le tour, on va dire, des meilleurs joueurs amateurs sur le rugby à 7. Donc lui, sa médiatisation va apporter, et derrière, en plus, s'ils arrivent à aller au bout, ils ont remporté quand même les championnats du monde cette année. S'ils arrivent à faire pareil avec les JO, ouais, je pense qu'il va y avoir un petit boom, et ça pourrait même donner des idées aux clubs, aux différentes assos qui font jouer à 7, d'aller un peu plus vers cette pratique, parce qu'elle est vraiment complémentaire du 15. Elle permet de travailler un peu plus dans les espaces, voilà, ça change un peu le jeu aussi. Donc c'est vraiment intéressant, et oui, je pense que s'ils vont au bout, on aura du monde qui vont toquer aux portes.
Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à faire passer un message à la mairie d'Angers pour essayer d'avoir plus de créneaux, plus de terrains, plus de tribunes.
C'est ça.
C'est ça, Cédric.
On va démonter les nouvelles tribunes du secours. Il y a de la place souvent. On peut peut-être récupérer une ou deux pierres.
On ne sait jamais. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le score rugby, les garçons?
On peut juste rappeler que la finale du rugby à 7, on la couvrira, oui, d'une manière ou d'une autre, l'autre,
exactement.
Soit en direct, si c'est l'équipe de France, je pense qu'on fera un gros live direct dessus. Sinon, en tout cas, on suivra l'actualité à ce moment-là, puisque ça tombera pile poil
pendant les Jeux, exactement.
Pendant les Jeux, tout à fait, c'est ce qui est tout à fait logique pendant les JO.
Exactement.
Mais c'est surtout que ça tombera
pendant l'émission
spéciale JO que vous allez retrouver durant la période des JO tous les samedis entre 19h et 21h.
De un créneau, voilà, pendant trois samedis de suite.
Trois samedis de suite, oui.
Exactement. On pourra avoir le loisir de parler sport olympique.
En plus de celle du mardi.
Exactement. Donc on aura vraiment une dose de sport sur Radio G très impressionnante. On fait une petite pause musicale. On remercie Thomas de nous avoir parlé
Merci
rugby pendant de longues minutes. C'était très très intéressant, et on espère couvrir l'année prochaine, te réinviter pour parler d'une montée en Fédéral 2 du coup.
Comme on dit, jamais 203. Je suis venu l'an dernier, je reviendrai l'an prochain avec plaisir. Et alors, je nous le souhaite aussi, que ce soit pour une montée. Je ramènerai le coach, vous verrez, il a quelques expressions un peu fleuries qui puent le rugby, ça pourrait être pas mal.
Ça pourrait intéresser nos auditeurs.
Les fameuses valeurs de l'Olympique.
Exactement. Faustin, qu'est-ce qu'on s'écoute sur Radio G?
On s'écoute Suntu de Blur.
Et voilà.
Check.
Funk 2 de Blur sur Radio G, sur le 101.5, une musique directement qui vient de FIFA 98. Et c'est l'occasion
c'est ce que j'allais te dire, ça sent les anciens FIFA.
Hein. Exactement, on va essayer de mettre ça tout doucement dans l'émission aussi, des musiques qui vous rappellent un peu votre enfance ou votre adolescence. Voilà, donc là c'était Funk 2, FIFA 98.
Avec par... là.
Comment?
C'était pas Barthez cette année-là sur la jaquette.
Ah non, c'était pas Barthez.
C'est 99.
99, exactement. 98, une année forcément qui rappelle de très bons souvenirs à tout le monde. On est dans une année aussi avec l'Euro. Là, c'était la Coupe du Monde en 98. L'Euro 2024 avec la France. Hier soir, on va parler football avec la France qui s'est donc imposée 1-0. Un but contre son camp de Yann Vertonghen. Cédric, elle nous a fait une petite blague sur les réseaux sociaux que les CSC marqués par l'équipe de France...
Il est en tête des... Du classement, hein, 8 buts, hein, CSC. Hein.
Ah, c'est ça, exactement.
Je pense que là, à la fin de la Coupe d'Europe, là, il y a tous les gros clubs, là, le Qatar, il va s'aligner, il va y mettre des millions. Hein.
Sur le CSC.
Ah ouais, CSC, là, je pense, grosse cote des transferts. Hein.
On sait jamais. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match entre donc Français et Belges, 1-0, un match soporifique, Mathéo?
Un peu terrifiant au niveau de l'animation offensive. Sur le papier, moi j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise idée, cette association Thuram-Mbappé. On sait que Thuram en club, il joue à deux attaquants avec Lautaro, qui est aussi un attaquant physique, qui prend souvent la profondeur, ce qui est de base le cas d'Mbappé, mais plus trop ces derniers temps. Griezmann en 10, c'était pas non plus une mauvaise idée en soi, avec un joueur qui sait jouer au milieu de terrain, qui sait jouer en attaque, et donc logiquement qui peut faire la balance entre les deux. Ça a pas du tout fonctionné, honnêtement. Griezmann a fait sans doute le pire match de son Euro et le pire match en bleu de son histoire peut-être. en tout cas, je pense qu'on n'en est pas très loin. Donc voilà, par contre défensivement on a vu des très belles choses, notamment Koundé, moi je veux vraiment souligner sa performance. On a souvent dit qu'on n'avait pas de latéral droit en équipe de France, moi le premier, là il nous a montré le contraire, surtout que offensivement il a été vraiment excellent, ce qui est pas le cas vraiment de Koundé, c'est pas son poste de base, il joue plutôt en troisième défenseur dans une défense à 3, voire défenseur central dans une défense à 2, donc c'est vraiment intéressant. Et puis faut voir qui mettra des buts à cette équipe de France là, c'est surtout la grande question, parce que quand t'es athlétiquement c'est n'importe quoi.
Ouais.
Il garde cette même solidité qu'il avait en Europe alors qu'il joue en Arabie Saoudite, qu'il a été longtemps blessé. Donc non, c'est un match intéressant sur la forme défensive, mais inquiétant dans la forme offensive, un petit peu à l'image de tous les matchs qu'on a eu depuis le début de cet Euro du côté de l'équipe de France.
Faustin, est-ce que t'as les solutions offensives à nous amener ou pas?
Les solutions offensives, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire là, parce que franchement on a du mal, on a testé quand même pas mal de choses, mais là il a peut-être manqué d'un activateur, d'un Barcola, d'un Dembélé qui pouvait provoquer plus que ce que l'a fait Jules Koundé à droite, qui souvent montait beaucoup plus que ce qu'il a l'habitude de faire. Et là peut-être que justement un Barcola qui rentre, un Dembélé aurait pu nous apporter des solutions dans la surface, sur des centres, sur des choses comme ça. Au final c'est Colomouani, le seul changement du match côté français déjà, qui déclenche ça, avec un peu de réussite évidemment, on en a besoin heureusement, parce que Tchouaméni a aussi bombardé les supporters.
5 frappes adverses, 5 frappes, je crois 6 frappes ou 5, une cadrée je crois de mémoire, au niveau des stats.
Il y en a eu 2 belles quand même.
Il y en a eu 2 belles, exactement. Cédric, il a l'air inspiré.
Ah oui, non mais je crois qu'il a toujours pas compris à quoi ça sert les remplacements. C'est fou. Enfin, sur un match comme ça, t'as un mec comme Giroud. Il y a eu quand même pas mal de corners. Tu sais qu'il est bon de la tête, enfin qu'il arrive à monter en hauteur. Fais-le rentrer un moment. Fais rentrer un Barcola. T'as rien à perdre. De toute façon, t'es il y a 0-0. Enfin, tente un truc. Je sais pas. C'était affolant pour ça. Après, bon. Pour avoir un bon match, faut deux équipes qui en aient envie. Moi, j'ai trouvé que les deux équipes, j'ai l'impression qu'ils seraient fait une passe à 10, ça aurait été la même chose. Et puis, on est arrivé au piano tranquillou, et puis, let's go, quoi. Par contre, Deschamps, pour une fois, il a fait des entraînements de piano.
Ouais, il avait préparé.
C'est peut-être la nouveauté.
Il avait préparé la séance de tir au but, exactement, au cas où. Peut-être qu'elle servira pour le prochain match, parce qu'on rappelle à nos auditeurs que la France, donc, jouera face au Portugal, donc, son quart de finale vendredi soir à 21h. Voilà, un match qui sera forcément différent de ce qu'ils ont proposé hier soir contre la Belgique. Les Portugais, eux, ont eu du mal à se sortir donc de la Slovénie. On rappelle aussi également que l'Allemagne et l'Espagne s'affronteront eux à 18h vendredi.
Ça, Angleterre, ça va être le beau Suisse, match de la soirée, normalement.
Dans le tableau du bas, exactement aussi, Angleterre-Suisse. Les Pays-Bas se sont qualifiés, donc il y a quelques instants avant l'émission, 3-0 face à la Roumanie. Dernier match, dernier huitième de finale, c'est ce soir. Donc à 21h, Autriche face à...
Turquie.
Ah, merci. J'avais plus l'équipe donc qualifiée. Donc voilà pour l'Euro 2024. On y reviendra forcément plus en longueur la semaine prochaine. On va évoquer avec toi Faustin, parce que t'as quand même préparé quelque chose pour cette émission. La NBA forcément avec donc ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi.
Exactement.
Avec deux Français au draftés en 1 et 2 en NBA.
Ouais, bah, et cette draft 2024 qui a de nouveau été historique pour le basket français avec pas moins que 5 nouveaux Français qui iront jouer en NBA la saison prochaine. Avec d'abord Zachary Risacher, le Français qui a réussi donc le back-to-back en étant le deuxième d'affilée à être drafté numéro 1 après Victor Wembanyama la saison dernière. Avec du coup Adam Silver qui a dit From France, from Bourg-en-Bresse. Voilà, c'était historique hier soir. Enfin, hier soir, pas
il y a une semaine.
Il y a une semaine, voilà, de voir ça devant nos écrans. On a ensuite eu Alexandre Tsar, donc drafté en deuxième chez les Wizards. Après le Choleté, Tidjane Salin, drafté en sixième. Il était annoncé plus vers les huitièmes. Et du coup, sixième du côté de Charlotte. C'était pas forcément une bonne chose pour lui, parce que Charlotte a du mal souvent à développer ses jeunes. On verra comment il s'en sort. Après, toujours au premier tour, on a eu Paco Mdadié qui a atterri chez les Knicks en 25e. Et enfin, on a eu Melvin Aginsa drafté en 52e le lendemain pour le deuxième tour.
C'est une draft historique. Voilà, on a un peu aussi l'œil de loin. Hein. Je pense qu'on s'attendait forcément à une draft un peu bizarre parce que les Français pouvaient être en 2, en 1, en 3, en 4, parce que voilà, il y a moins cet effet dominant que l'année dernière. Il y avait Wembanyama qui dominait vraiment tout le truc. Là, maintenant, on va voir sur la durée si cette draft, ces joueurs en 1 et 2 vont avoir un impact comme l'a eu Wembanyama, en tout cas sur sa première année, mais il faudra pas forcément s'attendre à la même impression, en tout cas. Voilà. Il faudra laisser le temps.
Une saison rookie à la Wembanyama.
On n'en verra pas d'autres avant de longues années. Exactement. Ça c'était pour la NBA, il y a eu aussi le Tour de France qui a démarré donc les amis donc depuis samedi, départ en Italie avec une étape à Florence qui partait de Florence donc samedi qui partait après vers Rimini, il y a eu Cesena Tico pour rendre hommage à Marco Pentani, il y a eu aussi donc à Turin hier, là ça partait de Pinerolo pour aller vers donc Valoir avec une victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui. Matteo, tu as eu un œil sur la course. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh ben déjà, j'ai envie de dire que ce Tour de France pour l'instant, il est historique en trois grands points importants. Romain Bardet vainqueur d'étape lors de la première qui prend donc un maillot jaune qui lui revient de droit pour sa dernière édition du Tour de France. Historique parce que voilà, on se croirait en 2017. j'ai eu des petits flashs. Ensuite, on a eu le premier cycliste d'Afrique noire, j'ai pas envie d'écorcher son nom donc je ne
Benyan
le dirai
Girmay.
Pas. Benyan Girmay, coureur érythréen et donc qui a été le premier cycliste d'Afrique noire à gagner une course sur le Tour de France, donc ça aussi c'est quand même très très beau. Et puis bah aujourd'hui, tu en as parlé, la victoire de Tadej Pogacar qui a pris 50 secondes au classement général sur Vingegaard. Donc c'est assez historique, sachant que l'année précédente, ce qui était assez marrant, c'est que à la quatrième étape du Tour de France, c'était l'inverse, c'était Vingegaard qui avait pris quasiment une minute à Tadej Pogacar. Donc ça a été une étape vraiment intéressante sur justement le col du Galibier.
Galibier.
J'ai eu du mal à le retenir celui-ci, mais qui est un col historique du Tour de France. Et on a eu du coup cette attaque de Pogacar, Vingegaard qui a eu du mal à suivre. On peut comprendre, il sort d'une grosse blessure. Il est resté 15 jours à l'hôpital, si je dis pas de bêtises.
C'est bien ça.
Donc ça a été assez énorme comme étape. Et puis voilà, Pogacar en jaune. Est-ce qu'il va le garder?
On verra. Voilà, on verra jusqu'à quand il peut le garder. S'il le garde jusqu'à la fin, il y a un contre-la-montre qui va avoir lieu vendredi aussi, donc il peut aussi redistribuer les cartes.
On se rappelle de celui de l'année dernière, exactement, de Vingegaard qui avait été quand même
avec Vingegaard, exactement, qui avait été bluffant sur son contre-la-montre. Rappelez aussi qu'il y a une autre victoire française,
oui,
dimanche, avec Kevin Vauclin. Kevin Vauclin qui s'est imposé donc dans les rues de Bologne. Donc voilà, c'est deux victoires françaises pour les deux premiers jours. C'est une chose assez extraordinaire pour le Tour de France. On verra. Maintenant, ils sont en France pour quasiment tout le long de de la course. Hein, maintenant, il y aura cette petite étape à Monaco dans la dernière journée, mais voilà.
Cette fin à Nice.
Cette fin à Nice pour une première. On verra ça d'ici maintenant 3 semaines. Voilà, il y a encore du temps à voir pour ce Tour de France. On verra si ça va se décanter dans les prochains jours. Bon, cette émission se touche à sa fin. On remercie encore Thomas d'avoir été présent avec nous jusqu'au rugby. On espère donc encore une fois une très belle une très belle saison l'année prochaine pour vous et pour toi en tout cas pour le club. Merci à vous les garçons pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On retrouvera forcément Alex présent dans l'émission. On retrouvera Clément et sur ce, passez une très bonne fin d'Euro. Ciao.
Bonne soirée.